France Inter.
Aujourd'hui dans Affaires sensibles, La Main Rouge. Derrière ce nom tout droit sorti d'un mauvais roman d'espionnage, La Main Rouge donc, se cache une page très sombre de notre histoire contemporaine. Pendant près de 10 ans, de 1952 à 1962, des opérations de sabotage et surtout des assassinats ciblés ont été exécutés et revendiqués par ce groupe armé secret. Pendant une décennie, des marchands d'armes, des militants, des avocats en lien avec la lutte pour l'indépendance de la Tunisie, du Maroc et de l'Algérie sont tués, d'abord au Maghreb, mais bientôt en Allemagne, en Suisse, en Belgique et en France métropolitaine. Pendant des années, on n'a pas pu mettre de visage ou d'identité derrière cette main rouge. Et puis, au fil du temps, les langues se sont déliées et cette histoire est devenue une sorte d'imbroglio où chaque version en chassait une autre. En vérité, derrière cet écran de fumée se cachait une dérive qui interroge les limites de la raison d'État en démocratie et qui jette une lumière crue sur les soubresauts violents de la décolonisation. Notre invité aujourd'hui, Nicolas Lebourg, historien, spécialiste de l'extrême droite. Il a publié en 2021 un article sur ce sujet qui permet de voir cette histoire sous toutes les facettes. Affaires sensibles, d'une émission de France Inter. Récit documentaire, Simon Maisonob. Rédaction en chef, Franck Cognard. Chargé de programme, Rebecca de Nantes. Réalisation, Frédéric Milano.
Fabrice Drouel. Affaires sensibles sur France Inter.
À Tunis, les éléments extrémistes ont repris leur activité en lançant une bombe dans un cinéma en pleine représentation. Plusieurs blessés, tel était le résultat de ce premier attentat. La série se poursuivait par la destruction d'une pharmacie entièrement ravagée par l'explosion pour atteindre finalement l'immeuble du service des mines. De nombreux blessés, tant tunisiens que français, ont été les victimes innocentes de ces attentats.
Le 5 décembre 1952, Rabès, banlieue sud de Tunis. Dans la matinée, une voiture démarre. À son bord, Farhat Arched, 38 ans. Regard bleu, visage rond, fine moustache. Un physique bonhomme qui tranche avec l'identité et les combats de cet homme engagé. Arched est secrétaire général de l'UGTT, l'Union Générale Tunisienne du Travail, le puissant syndicat qu'il a créé 6 ans plus tôt et qui lutte pour l'indépendance de la Tunisie. Avec Habib Bourguiba et Salah Ben Youssef, Farhat Arched s'est imposé comme l'un des visages du mouvement national tunisien. Et en cette fin d'année 1952, c'est à ce titre qu'il se s'est menacé. Depuis ces derniers mois, la situation tunisienne est particulièrement tendue. Dès son élection, un peu plus tôt, le nouveau président du Conseil, Antoine Pinay, a écarté le principe d'une souveraineté de la Tunisie. Et surtout, il a nommé à la tête du protectorat un certain Jean de Hautecloque, connu pour être sur une ligne dure. Ce dernier ordonne dès son arrivée l'arrestation des principaux leaders indépendantistes, ce qui déclenche une vague de manifestations et d'attentats. Quant à Farhat Arched, il sait à quoi s'en tenir. Depuis quelques semaines, des articles dans la presse procoloniale le visent nommément. Et il y a de quoi. Plasticage de sa maison, menace contre sa famille, appel au meurtre. Il y a de quoi avoir peur. Enfin, surtout, ces tracts qui circulent, tous identifiés d'une étrange signature, la main rouge. Référence à une main de Fatma, mais ensanglantée. Alors forcément, il doit repenser à tout ça, Farhat Arched, en ce matin du 5 décembre 1952, au volant de sa voiture. Quand tout à coup, une autre voiture arrive à sa hauteur. Des mitraillettes sortent des fenêtres et tirent dans sa direction. Blessé à l'épaule et à la main, il parvient à s'extirper de son véhicule. Une voiture s'arrête et lui propose son aide. Il monte. C'est un piège. Quelques heures plus tard, on retrouve son cadavre à abandonner, une balle dans la tête. À midi, l'annonce de la mort de Farhat Arched à la radio provoque des soulèvements dans toute la Tunisie et au-delà. Au Caire, à Damas, à Milan, à Stockholm et au Maroc, où l'interdiction des manifestations déclenche de terribles émeutes, à Casablanca, qui font plus de 40 morts. Face à cette situation, le pouvoir à Paris promet une investigation. En réalité, L'enquête judiciaire s'enlise, et rapidement. Fausse déclaration, rétractation de témoins. L'affaire est close 3 ans plus tard, en 1955 donc, sans que les coupables ne soient retrouvés. En cette même année, le peuple tunisien rend hommage à son leader lors d'une inhumation nationale à Tunis.
À Tunis, le peuple tunisien a rendu hommage à la mémoire de Ferhat Hachet. 100 000 personnes peut-être ont, avec Habib Bourguiba, accompagné la dépouille mortelle du leader syndicaliste tunisien jusqu'au mausolée où il reposera désormais. Assassiné, on s'en souvient, en 1952, Ferhat Hached avait été alors inhumé dans l'île de Kerkena, son pays natal. Il repose aujourd'hui au cœur de la capitale de la régence.
En juin 1955, Casablanca. Au moment où la Tunisie rend hommage à son leader disparu 3 ans plus tôt, ici aussi, au Maroc. Ces derniers temps, la situation est inflammable entre les autorités coloniales françaises et le parti indépendantiste marocain Istiklal. C'est désormais Edgar Faure qui est président du Conseil, celui d'une 4e République au gouvernement toujours plus instable et confronté au mouvement indépendantiste de ses colonies. Au cœur de la lutte au Maroc, se trouve un homme en particulier qui rentre chez lui en ce 11 juin 1955, accompagné d'un ami. Il a travaillé dans ses bureaux jusque tard le soir. Le voici qui se gare au pied de son immeuble. Cet homme, c'est Jacques Lemaigre Dubreuil. 60 ans, cet homme d'affaires est directeur de Le Sueur, le grand groupe spécialisé dans les huiles. Surtout, il présente un parcours pour le moins sinueux. Proche du groupe d'extrême droite La Cagoule, dans les années 30, les futurs assassins de la rue Lauriston. Lui, au contraire, est devenu résistant pendant la Seconde Guerre mondiale. Et il aide notamment au débarquement américain en Afrique du Nord. Au sortir du conflit, après avoir défendu l'empire colonial jusqu'en 1950, il finit par épouser la cause marocaine et soutenir l'autonomie. En avril, il a même acheté un journal, Maroc Press, dans lequel il publie des tribunes pro-indépendance, largement diffusées. Inévitablement, son soutien aux libéraux marocains lui attire des menaces. À certains proches, il se serait confié. Il craint pour sa vie. Il a raison. Il est 23h, ce 11 juin 55, quand tout à coup, deux voitures surgissent devant Jacques Lemaigre, Dubreuil et son ami. Les hommes dans les véhicules sortent des armes automatiques et font feu. Jacques Lemaigre, Dubreuil s'écroule. Il meurt sur le coup.
À Casablanca, les obsèques de M. Lemaigre Dubreuil, animateur de Maroc Press, abattu à la mitraillette par des contre-terroristes, ont montré à quel point l'immense majorité des leaders politiques et du peuple marocain a été saisie d'horreur par cet attentat. Il n'est pas douteux qu'on ait voulu frapper le partisan résolu d'un rapprochement sincère. Aux côtés de M. Francis Lacoste, président général, M. Pierre Mendès France est venu rendre hommage au sacrifice d'un homme tombé pour le Maroc et pour la France.
Ce qui frappe d'emblée dans l'assassinat de Jacques Lemaigre Dubreuil, c'est le professionnalisme de l'exécution. L'équipe était préparée, expérimentée, et la méthode rappelle d'autres meurtres de ce type et d'autres groupuscules, dont les noms circulent depuis quelques années. Le Lucotter, l'Odat, la Catena, la Main Rouge. Le trait commun de ces obscures organisations, c'est qu'elles sont souvent constituées de pieds noirs, de fonctionnaires, gendarmes, policiers ou militants de la présence française. Quant à la victime, il s'agit tout de même d'un grand industriel français, ami de François Mauriac, ancien résistant, homme d'affaires à succès. Le gouvernement français doit réagir. L'enquête est confiée à la DST, le service du ministère de l'Intérieur. Mais là encore, elle se confronte vite au silence, à l'absence de coopération, voire à l'hostilité des policiers et fonctionnaires du protectorat du Maroc. Pire, le seul témoin, l'ami de Jacques Lemaigre Dubreuil, qui s'en est sorti, et est retrouvé mort un mois plus tard. La scène laisse penser un suicide, mais les soupçons sont évidemment grands. Malgré tout, la DST rend son rapport en 1957 et dresse une liste de suspects. Un homme ressort notamment, un ancien policier en poste au Maroc, Antoine Mélero. Le rapport en question indique qu'il serait lui-même passé aux aveux. Il aurait été présent dans la voiture le jour de l'assassinat. Pourtant, malgré ces éléments, un non-lieu est prononcé. Antoine Méléro reste en liberté et retrouve les coulisses de l'histoire. Quoi qu'il en soit, le mystère sur les responsables ou les commanditaires de l'assassinat de Jacques Lemaître Dubreuil reste entier, comme pour Farah Tarched en Tunisie quelques années plus tôt. Et bientôt, c'est sur une autre scène que se déplace cette mystérieuse histoire de la main rouge.
Dans la rade de Mers El Kébir, le bateau pirate qui, sous le nom d'Athos, cachait une autre identité, bat maintenant pavillon français. À raisonner à la limite des eaux algériennes et marocaines, l'Athos portait une cargaison considérable d'armes, plus de 70 tonnes, d'une valeur de quelques 2 milliards de francs. Ces armes très modernes, et qui comportaient en plus de 2000 fusils, des mitrailleuses lourdes et 75 mortiers, étaient destinées aux rebelles algériens.
Depuis mars 1956, le Maroc et la Tunisie ont finalement acquis leur indépendance. Désormais, tous les regards se tournent vers l'Algérie, qui n'est pas un protectorat, mais un département français, et dont la situation est explosive depuis la Toussaint Rouge en 1954. Guy Mollet, président du Conseil, à la tête d'une coalition de radicaux et socialistes. Le cap à tenir sur la question algérienne est toujours le même. L'Algérie, c'est la France. Et il faut lutter contre le FLN et les indépendantistes. Pour ce faire, la France appuie sur le SDEC, le service de documentation extérieure et de contre-espionnage, autrement dit, les services secrets français. Créé en décembre 1945, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, le service de renseignement extérieur français est en grande partie composé d'anciens résistants, de militaires, et placé sous la tutelle du président du Conseil. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, le SDEC est mobilisé par la guerre froide et surtout par les mouvements de décolonisation qui frappent l'Empire français en déliquescence. Pour mener ses opérations, il s'appuie sur son service Action, issu du 11e bataillon parachutiste de choc. Cette unité d'élite est basée dans le sud de la France. Ses techniques sont héritées de l'expérience des forces spéciales de la libération et de la guerre d'Indochine, autrement dit, la guérilla, le sabotage, l'infiltration derrière les lignes adverses. L'objectif de ces services Action, désarmer le FLN. L'idée est de mener une contre-guérilla insurrectionnelle à travers des opérations appelées Arma. On vise les navires qui envoient des armes pour le FLN, on infiltre les réseaux, on organise des opérations de sabotage, tout un programme. Raymond Meuel, un membre de ces services Action du SDEC, revient en 1996 sur ces méthodes spéciales du service Action.
On avait découvert en Indochine une forme de guerre qu'on appelait non conventionnelle, que certains ont appelé la guerre révolutionnaire, sans trop bien savoir ce que ça voulait dire. Mais il est évident que certains objectifs ne doivent pas être atteints par des méthodes et des moyens classiques. Il faut donc que certaines personnes, certains officiers en particulier, soient préparés à jouer les clandestins pour traiter des objectifs qui ne peuvent pas l'être par l'armée régulière, normale, l'aviation, la marine, ou l'infanterie, ou l'artillerie.
Mais dans tout ça, quel lien avec la main rouge ? Eh bien, parfois, elle revendique des opérations de sabotage. S'agit-il du groupuscule armé déjà connu ou du service Action ? Le trouble s'installe, comme en témoigne l'archive que vous allez entendre dans quelques secondes. Elle date de l'année 71. Au cours d'une émission de télé, le colonel Paul Grossin, directeur du SDEC pendant cette période, est interviewé. Les journalistes l'interrogent sur cette main rouge et les doutes sur les liens avec les services secrets français. Parce que c'est une rumeur qui court depuis quelques années déjà. Cet échange trahit la confusion et la lente dérive que cette affaire de la main rouge s'apprête à prendre.
Vous voulez parler de, sans doute de la main rouge, n'est-ce pas ? Ce qu'on a appelé la main rouge.
Vous maintenez la question de la main rouge en
général ? Mais non, je la maintiens. J'ai comme vous appris la question de la main rouge, mais il y avait...
Pas par nous quand même.
Non, mais comme vous, je l'ai appris dans les journaux.
Parce que vous nous l'auriez reproché sûrement.
J'ai appris la main rouge, comme vous, par les journaux et par la publicité qu'on en a fait. Mais il y a eu main rouge, il y avait eu une OAS. Pourquoi il n'y aurait pas eu une main rouge ?
C'était quoi la main rouge pour vous, alors, en général ?
La main rouge, c'est un genre de gens qui étaient, des révolutionnaires dans leur genre et qui voulaient faire, qui estimaient que le gouvernement français ne prenait pas assez de dispositions pour contrer, si vous voulez, les marchands d'armes ou les trafiquants d'armes. Ils ont fait leur travail eux-mêmes.
Il n'y a pas de réseau parallèle qui dépend du SDEC.
Il n'y a pas de réseau parallèle, ça ne dépend du SDEC.
Pas du tout. Mais ça
ne m'intéresse pas, mais je dis qu'il n'y en a pas. S'il y a des réseaux parallèles, ils ne sont pas au SDEC.
Flamme, mon tueur, mon bel assassin, jolie brute pour ces dames, mon amour, mon trancheur de sein, mon pointeur, mon incendiaire, en auras-tu assez brûlé, des hommes torches et violés, des jeunes filles impubères. Broyeur de mort, lanceur de feu, rôtisseur de petits villages, mon bel envoyé du bon Dieu, mon archange, mon enfant sage, bardé de cuir, casqué de fer, fusilleur, honneur de la race, que rien ne repousse où tu passes, mon soldat, mon fils de l'enfer. Tes bêtes mécaniques, écraser ceux qui sont chez eux, va de l'équateur au tropique, arracher le bonheur des yeux. Va mon fils, va tu civilises, et puis meurs comme un épinal, sur une terre jaune et grise, où nul ne te voulait du mal. Broyeur de mort, lanceur de feu, rôtisseur de petits villages, mon bel envoyé du bon Dieu, mon archange, mon enfant sage, bardé de cuir, casque et de fer, fusilleur, honneur de la race, que rien ne repousse où tu passes, mon soldat, mon fils de l'enfer.
Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter, aujourd'hui la main rouge.
C'est un camouflage qui a été employé par le SDEC à l'époque. En fait, la main rouge, il existait une main rouge qui était une affaire montée par des colons de Tunisie et avait procédé à quelques exécutions sommaires sur le terrain. Et on a repris ce terme-là pour justement démarquer le gouvernement.
Affaire sensible, Fabrice Drouel.
Genève, 24 septembre 57. En début d'après-midi, dans le centre de la ville, un homme d'une cinquantaine d'années rentre chez lui. Il prend l'ascenseur, arrive sur son palier, quand soudain, un homme derrière lui sort un objet en forme de sarbacane, souffle une flèche dans sa direction qui le transperce au niveau du poumon gauche et s'enfuit en courant. La victime parvient à faire les quelques pas qui le séparent de la porte de son appartement. Il sonne, sa femme lui ouvre. Il s'effondre dans ses bras. Il a tout juste le temps de lui glisser « J'ai été empoisonné ». Il meurt quelques secondes plus tard. Lorsque les policiers arrivent sur les lieux, deux éléments retiennent leur attention. D'abord, le mode opératoire. L'arme qu'on retrouve sous le paillasson d'un voisin est une pompe à vélo munie d'un ressort et transformée en sarbacane. Inconnu jusque-là, ce dispositif est particulièrement ingénieux et ne peut être que l'œuvre de professionnels, avec un S. Ensuite, la personnalité de la victime. Il s'agit de Marcel Léopold, un homme au parcours pour le moins singulier. Après avoir fait fortune en Chine dans les années 30, il est obligé de quitter le pays lors de la prise de pouvoir par Mao et quelques années en camp de prisonniers. Il regagne Genève en 54, libéré mais sans le sou, mais avec des contacts. Il a fait un peu de trafic d'armes en Asie, secteur qu'il réinvestit dans le contexte de la guerre d'Algérie avec l'approvisionnement en explosifs du FLN. Les enquêteurs suisses suivent cette piste, car depuis quelques mois ça n'arrête pas. En septembre 56 et en juin 57, par deux fois à Hambourg, le célèbre trafiquant d'armes allemand Otto Schlüter, qui approvisionne lui aussi les FLN, est frappé par des attentats à la bombe. D'abord ses bureaux, où l'un de ses employés meurt. Ensuite, sa voiture, où sa mère est tuée. Lui en réchappe la première fois, mais il est grièvement blessé la seconde. À Genève, il y a quelques semaines à peine, c'est un certain Georges Geyser, fabricant de détonateurs, qui est poignardé en pleine rue. Bref, la liste s'allonge avec ce Marcel Léopold. Comme les autres, il avait reçu des lettres de menace quelques jours avant sa mort et à chaque fois, un nom est revenu, la main rouge. Et puis quelques mois plus tard...
La France vient de vivre une semaine qui appartient à l'histoire. Les événements d'Algérie avaient donné le signal d'une crise dramatique, mais peut-être en même temps d'un immense espoir. En effet, on l'avait vu à Oran comme à Alger, un extraordinaire revirement populaire avait suivi la prise de position de l'Algérie. En appelant ensemble le général de Gaulle au pouvoir, Européens et musulmans d'Algérie proclamaient leur volonté d'être français. Et la question se posait, allions-nous vers une dislocation de la nation? Allions-nous vers la fin de la République?
Juin 58, la guerre d'Algérie provoque une crise politique majeure. Le général de Gaulle est rappelé. C'est la fin de la 4e République et l'avènement de la 5e. Ce qui n'impacte pas les services secrets, non, la plupart de l'organigramme est maintenu. C'est toujours Paul Grossin qui est à la tête du SDEC. En revanche, le lien avec le pouvoir politique évolue. Désormais, une cellule proche du nouveau Premier ministre, Michel Debré, est mise en place. À sa tête, Constantin Melnik, le conseiller spécial pour la sécurité et le renseignement. Ce dernier est en lien direct avec un certain Jacques Foccart, que l'on considère comme l'ombre officieuse du renseignement de cette époque. Voilà pour la forme. Sur le fond, la ligne est maintenue. Lutter contre le FLN. Et voici le cadre fixé par le général de Gaulle que détaillent successivement Constantin Melnik et l'agent Raymond Muel.
Le cadre fixé par le général de Gaulle pour le service action, qui est d'ailleurs très très intéressant, et c'était les opérations n'auront lieu qu'en temps de guerre. Et nous étions en temps de guerre. Ils auront lieu que contre des citoyens étrangers, et une troisième condition avait été posée, et les opérations n'auront lieu qu'en territoire étranger également. Et c'est sur ce point précis qu'il y a eu une dérivation de la règle fixée, mais c'est uniquement, justement, une dérivation.
À partir de 1958, il y a eu un changement d'attitude dans les positions gouvernementales françaises, et avec M. Debré et M. Papon, préfet de police, nous avons été sollicités, et on nous a même donné l'ordre, de participer, nous, en tant que service action, à certaines actions que ne pouvait pas assumer la police. Par exemple, faire disparaître certains chefs FLN ou certains FLN de deuxième niveau.
En parallèle, les assassinats ciblés continuent. Le 8 novembre 58, à Bonn, Heit Arsen, délégué du FLN en Allemagne, est victime d'un tir en pleine tête. Quelques semaines plus tard, un autre avocat algérien est tué dans l'explosion de sa voiture à Rabat. Puis c'est au tour d'Abdel Swalem, membre du FLN, d'être assassiné devant la gare de Sarrebruck, en Allemagne. À chaque fois, les mêmes méthodes professionnelles. À chaque fois, les mêmes liens avec le FLN. À chaque fois, un nom revient, la main rouge. En Allemagne, en Suisse, en Belgique, forcément en enquête. Voilà une série d'assassinats dans leur pays et un lien entre toutes ces affaires, le FLN. Alors inévitablement, tous les regards se tournent vers Paris. Le gouvernement français est-il au courant de ces actions? Et surtout, est-il impliqué? Le 17 avril 59 en Allemagne, le procureur général auprès du tribunal de Francfort organise une conférence de presse. Il revient sur la dizaine d'attentats qui ont eu lieu sur le territoire allemand ces dernières années. Et il dénonce ouvertement le groupe de la Main Rouge et il donne des noms de personnes recherchées. Surtout, pour la première fois, le procureur allemand déclare publiquement qu'il soupçonne les services de contre-espionnage français d'être en lien avec cette organisation. L'étau se resserre. Et bientôt, la dérive s'accélère. Paris, 21 mai 59, Mokhtar Aouda, avocat, quitte son bureau. Depuis plusieurs semaines, il est inquiet. Comme 7 de ses collègues, tous membres d'un même collectif d'avocats, défenseurs de l'indépendance algérienne, il a reçu des menaces de mort par courrier anonyme. Elles sont toutes signées de la main rouge. Il sait qu'il se dit des choses sur cette organisation, mais sans que ce soit très clair. Et puis, jusque-là, ça ne touche pas le territoire français, ce sont surtout des marchands d'armes, des membres du FLN. Bref, il sort de son bureau, et là, sur le palier, un homme l'attend et lui tire dessus. Mokhtar Oldawada s'effondre. Le tireur s'enfuit sans qu'aucun témoin n'ait le temps de voir quoi que ce soit. Dans son témoignage, des années plus tard, l'ancien agent Raymond Muel raconte.
Alors donc, on nous a donné l'ordre d'exécuter et de commencer par le premier maître Oldawada.
Vous dites l'ordre nous était donné, c'est-à-dire que l'ordre venait d'où?
L'ordre venait du Premier ministre.
Personnellement?
Personnellement, ça allait du Premier ministre au général commandant de SDEC, général Grossin à l'époque. Mais la plupart du temps, d'ailleurs, les contacts étaient directs entre le chef du service action, M. Focard, et le Premier ministre.
Vous avez été officier traitant de cette opération?
Pas moi, personnellement.
Mais vous la connaissez bien?
Mais je la connais bien.
Et d'autres avocats ont été aussi sur la liste, étaient visés?
Oui, je pense que l'affaire a été... du collectif des avocats a été stoppée très rapidement, parce que ça a quand même fait du bruit. Mais tous les avocats, en particulier M. Vergès, avaient été mis sur la liste.
Il y aurait donc un lien entre la main rouge et les services secrets français. Seulement là, on ne parle plus de sabotage ou de contre-espionnage, des opérations Arma. Non, il existerait aussi des opérations dites homo, comme homicide, qui consistent à assassiner des marchands d'armes, des militants ou des soutiens du FLN. Ce qu'on appelle des assassinats ciblés, chers à tous les services secrets du monde, y compris dans les pays démocratiques. Mais là, les digues imposées par le pouvoir sont rompues. Le territoire métropolitain est désormais concerné, des citoyens français sont visés et les bavures surviennent. En juillet, à Rome, la voiture de Tayeb Boularouf, membre du FLN, explose. La bombe a été déclenchée par un enfant qui jouait à côté. Cet enfant est tué dans l'explosion. Des ressortissants européens sont visés. En Belgique, un professeur connu pour ses positions pro-algériennes est tué par un colis piégé. Le même jour, toujours en Belgique, un collègue universitaire échappe de peu à un colis du même type. Alors allemands, suisses et belges accentuent leur pression diplomatique sur la France. Dans le Spiegel, par exemple, le grand quotidien allemand, on dénonce directement les services secrets français. Et en France, l'Humanité et l'Express commencent à enquêter.
Ils sont riches, ils sont intouchables, ils sont sans foi ni patrie. Aux quatre coins de l'Europe, ils tissent implacablement la toile d'araignée de leur trafic immonde. Excités par l'appât de gains fabuleux, ils attisent haine et rancœur pour fournir ensuite aux hommes qu'ils ont déchaînés les moyens de s'entretuer. Mais une main se lève, couleur de sang qu'ils ont enversé, une main justicière qui va frapper sans relâche. Sans merci.
En juin 1960, un livre étrange sort aux éditions Nord-Sud. Le titre est pour le moins efficace, La main rouge. Signé sous pseudonyme par un certain Pierre Genève, il se présente comme le livre révélation sur le groupuscule qui effraie et questionne désormais toute l'Europe de l'Ouest. Je cite. Sous la forme d'une enquête, l'ouvrage est construit autour d'entretiens avec les chefs de cette organisation. Le livre expose les intentions de ce groupe. Continuer et accentuer l'entreprise de déstabilisation terroriste et pro-coloniale. En parallèle, du côté des autorités françaises, on s'appuie sur ce livre pour montrer que cette organisation cherche à discréditer la France. Quelques mois plus tard, à Genève, Félix Moumié, le leader de l'indépendance du Cameroun, meurt à Genève dans d'étranges circonstances, visiblement empoisonné. Et là encore, l'ombre de la main rouge plane. En réalité, et il est temps de le dire maintenant, vous l'aurez compris, la main rouge, c'est un coup des services secrets français. Une entreprise d'intoxication globale que racontera des années plus tard Constantin Melnick, le conseiller spécial.
Il y avait un travail de tueur, vous l'expliquez hélas très bien, Constantin Melnick, mais il y avait aussi un travail de propagande idéologique, c'est-à-dire que la plupart de ces exécutions étaient masqués dans la presse et racontés autrement.
Non, mais il
et
était
ça marchait auprès des gens.
Il était absolument nécessaire pour sauvegarder.
On disait que c'était la main rouge et tout le monde croyait que c'était
le pouvoir du général de Gaulle.
Alors c'était le pouvoir de ça
de résoudre les problèmes algériens. Donc nous espérions tous que le général résoudrait ce problème algérien au plus vite et au mieux. Donc il fallait que son action soit préservée par le secret le plus absolu. Et ce secret était préservé par un montage qui comme on dit dans les services secrets, mais c'est un montage qui faisait revendiquer tous les attentats par une fausse organisation terroriste. Il y avait eu un petit groupuscule jadis en Tunisie qui s'appelait la Main Rouge, ce qui fait que quelqu'un a eu cette idée, qui est d'ailleurs très astucieuse, de dire que chaque fois qu'il y avait un attentat, il y avait un monsieur qui téléphonait en disant « Pardon, c'est nous qui l'avons fait, et nous sommes la Main Rouge, et nous défendons la chrétienté et la présence de la France en Algérie. » Donc, ça marchait comme sur les roues.
En avril 61, le coup de force tenté par les généraux à Alger provoque de nombreux remous côté français, et notamment dans les coulisses des services secrets. Comment vont réagir ceux qui, dans l'ombre, agissent par des opérations Arma et Homo en faveur de l'Algérie française? Le SDEC est divisé. Des membres du service action choisissent les putschistes et rejoignent l'OAS, l'organisation armée secrète, qui fomente des attentats contre le général de Gaulle. Le service action est réorganisé. L'indépendance de l'Algérie, officielle le 5 juillet 1962, clôt un cycle, et petit à petit, la Main Rouge disparaît de l'actualité. Elle y reviendra près de 30 ans plus tard, quand une partie des protagonistes témoignera. Et cela confirmera tous les soupçons. Derrière une grande partie de ces opérations, c'était bien la France qui était en cause. Et parfois, des agents sur le terrain ont pris certaines libertés, sortant du cadre fixé. La Main Rouge interroge ainsi la raison d'État et l'usage de ses méthodes dans les démocraties. Certains de ses acteurs ont d'ailleurs exprimé des remords, des années après, comme Constantin Melnik, à la tête de cette opération.
Je pense qu'il y a eu un dérapage. C'est-à-dire que on est parti de l'idée que le trafiquant d'armes pouvait être éliminé, et de là, l'idée que l'on pouvait éliminer qui on voulait. Moi, l'hypothèse que je retiens, c'est que le dérapage est dû à des éléments non contrôlés.
France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel.
Aujourd'hui, la Main Rouge, notre invité Nicolas Lebourg. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes dans les studios d'ici Perpignan, j'imagine ?
Tout à fait. Bien. Le département où se situe le 11e choc.
Voilà, donc c'est bon. En tout cas, on remercie ici Perpignan pour leur accueil. Vous êtes donc historien, spécialiste de l'extrême droite. Vous êtes plongé dans cette histoire de la Main Rouge depuis les archives. C'est important, cette précision, les archives. Et vous avez publié en 2021 un article sur ce sujet qui permet de voir, sinon différemment cette histoire, en tout cas sous tous les angles. La Main Rouge a été relancée dans les années 90 par le témoignage de protagonistes directs qu'on a pu entendre dans le récit. Ces témoignages ont aussi créé une sorte d'écran par rapport aux événements. Et vous, vous êtes revenu aux archives. Vous pouvez nous raconter votre démarche ?
Oh bah, à cette époque-là, je travaille à l'université George Washington sur les réseaux transnationaux des extrêmes droites et en même temps, je suis au comité de pilotage d'un programme sur les violences politiques en France de l'Agence nationale de la recherche. Donc la Main Rouge, c'était à la fois un peu décalé et une affaire un peu prototypique de ces questions de réseau et d'usage du terrorisme à droite.
Du terrorisme, donc, en l'occurrence, pour notre histoire des anti-indépendantistes, on est bien d'accord ?
Oui, totalement.
Alors, vous parlez d'auto-intoxication. Vous pouvez revenir sur cette idée ?
Alors, il y a plein de choses et qu'on retrouve tout à fait dans votre documentaire. Il faut bien voir que quand on va dans les archives, c'est un peu fou. Parce que, par exemple, j'ai trouvé des documents avec des officiers de la police judiciaire française traquant des terroristes de la Main Rouge en Belgique, qui s'avèrent être des contacts du SDEC, mais les policiers français ne savent pas que ce sont des agents français. Et d'un côté, j'ai les archives du SDEC, justement, de l'autre côté, j'ai les archives de la PJ. Et qu'est-ce qu'on voit ? C'est qu'en fait, il y a une auto-intoxication incroyable. On entendait entendez Pierre Grossien, l'ancien patron du service secret français, expliquer ce livre qui aurait été entièrement construit par les services secrets français pour créer un écran de fumée. En fait, c'est faux. Là, c'est des militants d'extrême droite qui doublent le SDEC contre de l'argent. Il y en a un qui est un ancien collabo, qui avait d'ailleurs déjà fait un faux livre de témoignages, qui avait eu le prix Vérité, de faux témoignages, de faux passés de résistants. Et le SDEC finit par croire lui-même que c'est lui qui fait cette opération, alors qu'à ce moment-là, c'est lui qui se fait manipuler.
C'est l'arroseur arrosé.
Totalement. Tout le monde joue son jeu. Et il y a à la fois des organisations très structurées, comme les services, qui suivent plus ou moins des stratégies, et des individus qui conservent leur part d'autonomie. Et résultat, tout ça vous amène dans un chaos total.
Bien sûr, un imbroglio incroyable. Tout est tordu, finalement. Il n'y a pas que les services secrets qu'on ait des méthodes tordues. Hein. On va écouter une archive. Alors, il s'agit d'un personnage qu'on a évoqué dans ce récit. Antoine Mellero, c'est un ancien policier. Il est l'un de ces hommes qui a témoigné en 2010. Écoutez.
J'étais convoqué par ce fameux capitaine Fillette qui s'est présenté, qui était à la résidence générale à Rabat, et qui m'a dit, voilà, vous allez rentrer dans une organisation qui s'appelle la Main Rouge. Il m'a dit, je vais vous expliquer comment que ça se passe, ce qu'on fait, etc. Et puis, maintenant, vous avez une semaine pour réfléchir et refuser. Vous pouvez refuser. Mais j'ai dit, non, c'est pas la peine d'attendre, moi ça m'intéresse. Et voilà comment je suis rentré dans la Main Rouge. C'était un groupe, il y avait un commissaire de police dans cette affaire-là, et il y avait deux fonctionnaires de police sur quatre dans cette affaire. Oui, c'est ça, deux fonctionnaires de police sur quatre. C'est eux qui font l'attentat. Moi, je la trouve légitime. Moi, si c'était à refaire, je referais.
Alors, le profil de ces militants et ces gens qui agissent est un profil d'anciens policiers souvent, mais on sent qu'ils sont quand même portés par une idéologie vraiment anti-décolonisation.
Ah oui, très clairement. Ce sont des gens qui sont mobilisés. Ils considèrent qu'ils sont en croisade pour l'Occident. Ils considèrent que c'est une guerre révolutionnaire qui veut détruire l'Occident face à eux. Et puis, au départ, ils sont souvent lancés avec l'aval de l'État. Au début, la première Main Rouge en Tunisie, il y a des hommes qui reçoivent ce qui est quasiment désordre de participer à une activité subversive. Ce qui est particulier, c'est qu'après, souvent, comme vous le racontiez tout à l'heure d'ailleurs, on va les retrouver du côté de l'organisation de l'armée secrète, c'est-à-dire de gens qui vont être des ennemis de l'État, parce qu'une fois qu'ils ont été lâchés dans cette mission, évidemment, il est difficile de les retenir.
Oui, toujours ce dogme de la colonisation. L'Algérie, c'est la France.
L'Algérie, c'est la France, c'est la question absolument indépassable dans laquelle se situe toute cette affaire.
Alors, quand même, la Main Rouge, à partir de quand a-t-on eu des soupçons, finalement ?
Alors, très vite. Très vite, parce que bien évidemment, le fait que ce soit les soutiens des indépendantistes qui se fassent systématiquement assassiner d'une manière, comment dire, assez propre, très professionnelle, bien évidemment, va faire planer l'ombre des services. Résultat, il y a toute cette question d'intoxication et d'auto-intoxication qui vont aussi très très vite rentrer en jeu. On arrive à des choses qui sont aussi un petit peu délirantes. Dans les documents de l'enquête judiciaire, on se rend compte qu'à un moment, le juge et les policiers cherchent Durieux, le chef de la Main Rouge, qui serait le sosie d'Alphys Presley, qui marcherait en dodelinant, néanmoins, un vice-procès qui dodeline, et dans des décorums qui sont censés être nazis, avec des aigles nazis, etc. Des intoxications complètement, on dirait aujourd'hui, conspirationnistes, oui, prises un peu au pied de la lettre.
Alors, vous rappelez aussi que cette Main Rouge s'inscrit dans un moment où il y a une sorte d'inflation de ce type de groupe armé d'extrême droite, comme la Catena et d'autres qu'on a cités. Mais qui sont ces organisations, ces groupes ? Quelle est la sociologie de ceux qui la composent ? Est-ce qu'elle est la même que celle de la Main Rouge ?
Alors, pas forcément. Alors, en plus, il faut bien se rendre compte qu'on a une période très particulière. Selon le service de renseignement français, durant la guerre d'Algérie, vous avez 7500 activistes d'extrême droite. 7500, c'est extraordinaire. Avec l'évolution démographique de notre pays, aujourd'hui, on considère qu'il y en a 3000. Vous voyez, plus de moitié moins. C'est le summum qu'on n'ait jamais eu sous la Ve République. Donc, on est dans une ambiance très particulière, avec beaucoup de complots. Il y a, c'était aussi raconté dans votre documentaire, des anciens de la cagoule, en particulier le docteur Martin, qui continue à avoir des complots comme le Grand Tau, par exemple, où on va trouver un certain nombre d'officiers supérieurs. Il y a des complots qui visent à influencer l'État. Là, on retrouve une partie de la question de la Main Rouge, avec certains officiers supérieurs qui considèrent que c'est une manière de mettre la pression sur l'État. Et on remonte jusqu'au plus proche du général de Gaulle, de parmi ces gens qui conspirent de cette façon-là. On va trouver des complots beaucoup plus grossiers, avec une sociologie plus populaire qui vise à une violence par la terreur pour empêcher la mobilisation des indépendantistes. En sorte, on a toutes sortes de complots et souvent de confusion entre les uns et les autres. Pareil, on trouve un moment dans l'enquête judiciaire, le juge qui se dit qu'en fait la cagoule, c'est le complot qui a créé la main rouge et qui serait en lien avec le Ku Klux Klan aux États-Unis. Et là aussi, il part sur quelque chose qui est complètement à côté de la plaque.
Alors, quand vous dites que ça remonte jusqu'à les proches du général de Gaulle, est-ce que le célèbre Jacques Foccart, qui sera après le monsieur Afrique de Gaulle, est concerné? Est-ce que ça remonte jusqu'à lui? Est-ce qu'il a un rôle? Est-ce qu'on en sait plus là-dessus?
Oui, bien sûr. Jacques Foccart, donc, c'est un personnage extrêmement important des années gaullistes, qui effectivement va être le monsieur France-Afrique, mais qui avant ça est déjà un peu le monsieur coup tordu de l'organisation des coups un petit peu spéciaux de la France. Donc dans toutes les affaires de la main rouge, on trouve l'ombre de Foccart, là aussi avec des tissages qui sont aussi des tissages, même si ce sont des gens qui viennent de la résistance, vis-à-vis d'anciens de l'extrême droite radicale. Mais là aussi il y a une tradition, vous avez toute une partie d'anciens militants de l'extrême droite radicale qui après l'épuration, après 1944 en France, vont s'investir en Afrique, vont faire des affaires en Afrique parce que c'est plus simple pour eux de se recyclés là-bas, et qui sont utilisés dans les années 50 et jusqu'aux années 70 dans la vie politique française, soit pour du financement occulte de campagne électorale de tout le monde, soit pour des opérations occultes comme celle-ci.
Oui, et les résistants, l'armée des ombres, les services secrets qui travaillent dans l'ombre, il y a une espèce de continuum, sauf que pour les résistants c'était pour la bonne cause pendant la guerre, et ensuite c'est pour la mauvaise cause, on peut résumer ça comme ça.
France Inter. Affaire sensible.
Nicolas Lebourg, cette affaire montre aussi une tension entre la France et la RFA et entre les services secrets de chacun des pays. C'est normal puisqu'il y a des attentats à la main rouge qui sont perpétrés sur des sols étrangers. Est-ce que la RFA joue un rôle dans cette guerre d'Algérie sur le sol européen indirectement ?
Elle joue un double jeu, la République fédérale d'Allemagne, très clairement. L'Allemagne de l'Ouest de cette époque prend fait et cause pour l'indépendance des anciennes colonies. Et on va les voir dans les pays du Maghreb, même aider effectivement ces indépendantistes face au SDEC et à la main rouge. Mais en même temps, on se rend compte qu'en Europe, ils poussent au jeu les Français, parce que pour eux, c'est tout bénéfice. Ce sont les Français qui assassinent les soutiens du FLN, qui d'ailleurs, au passage, sont souvent d'anciens nazis, sur le territoire allemand, ce qui fait que les services allemands ne se salissent absolument pas les mains. Donc, il y a clairement un double jeu de la part de l'Allemagne à cette époque-là.
Et vous dites que la RFA soutenait les indépendantistes, on a envie de dire, mais de quoi je me mêle, quoi ? Ça les concerne pas directement.
Bah, eux, ça leur permet d'accentuer leur puissance, à ce moment-là, en Afrique du Nord.
Oui. Ah, et le jeu habituel.
Ah oui,
c'est... Et oui, en 2013, François Hollande se rend en Tunisie. Donc François Hollande est président de la République à l'époque. Et devant l'Assemblée, il prononce un discours dont voici un extrait.
Son assassinat avait été revendiqué à l'époque par la Main Rouge, un groupe terroriste favorable au protectorat français. Mais sa famille a toujours soupçonné l'État français d'avoir commandité cet homicide. Après des années de lutte, son fils et sa mère ont enfin obtenu gain de cause. François Hollande, ce matin, devant l'Assemblée nationale constituante.
Je m'engage, au nom de la France, à rechercher et à faire toute la clarté sur son assassinat en 1952. J'ai d'ores et déjà donné instruction pour que toutes les archives soient rendues publiques, sans aucune exception.
Ces archives devraient peut-être permettre d'en savoir plus sur les circonstances de sa mort. Pour l'historien Benjamin Stora, il pourrait être démontré que le SDEC, autrement dit les services secrets français de l'époque, était derrière cet assassinat.
Il y a peut-être, je crois, à l'intérieur de ces archives, des notes indiquant que des agents du SDEC étaient aux alentours de la demeure de Ferhat Ached, ce qui n'avait jamais été dit jusqu'à présent. Maintenant, est-ce que ces notes de responsables du SDEC signifient qu'un ordre politique soit venu d'en haut de l'appareil d'État ? Ça reste à montrer, ça reste à prouver.
Voilà, on a entendu François Hollande et le contexte autour, c'est encore mieux. Qu'est-ce que ça vous inspire ?
Alors, ça m'assure plein de choses. Tout d'abord, bien évidemment, la France, à travers le président de la République, se grandit de reconnaître un crime dont il était un secret de polichinelle, sans doute, qu'il était lié à l'État français. Ensuite, on est dans un contexte particulier, c'est ça qui est intéressant. La question des mémoires de la colonisation est de plus en plus importante au XXIe siècle. Pendant des décennies, on a vécu sur la mémoire de Vichy. Depuis le début du XXIe, on est là-dessus, et avec toute la part de conflit. En 2001, l'Internet des extrêmes droites est saisi par le fait que Al-Qaïda, ça serait le descendant du Front de Libération Nationale, en fait, algérien. C'est un des grands thèmes de l'Internet d'extrême droite en 2001. On va retrouver ça en 2015 avec Daesh, on va retrouver ça en 2023 avec le Hamas, à expliquer, c'est la suite de la guerre d'Algérie à chaque fois. On a un contexte qui est devenu obsessionnel, où on interprète les événements, on réécrit les histoires par rapport à cette question coloniale. Ça exige justement une grande transparence de la part de la République française sur ces questions pour défaire ces mésusages de l'histoire.
Et vous pensez qu'on a fait déjà un bon bout de chemin? On n'est pas arrivé au bout non plus?
Non, je ne dirais pas qu'on est arrivé au bout, je ne serais pas si optimiste.
Cette affaire montre que la colonisation, tout comme la décolonisation, engendre des violences. La colonisation, d'un point de vue structurel, on le sait bien, on a assez dénoncé les crimes de la colonisation partout, et pas seulement de la part de la France, évidemment. On voit que le processus de décolonisation engendre aussi beaucoup de violences.
Oui, bien évidemment. Bien évidemment, surtout qu'il faut jamais oublier, on peut pas comprendre les questions des guerres de décolonisation si, en plus, on oublie qu'à côté de ça, on est dans le contexte de la guerre froide. Ce qui fait que les acteurs sont multiples, qu'ils ont des mobiles idéologiques qui les saisissent, qui peuvent être le patriotisme, qui peut être la cause, une cause partisane, qui peut être le fait de changer des rapports de force internationaux. Bref, on se retrouve, et c'est très typique dans l'affaire de la Main Rouge, avec une multiplicité d'acteurs qui ont souvent une multiplicité de mobiles.
Ouais. Alors, je voudrais, puisque je tiens en main votre livre, votre dernier livre coécrit avec Olivier Schmitt, revenir sur une minute et demie sur cet aspect intéressant qu'on voit dans le titre d'ailleurs du livre « Paris-Moscou, un siècle d'extrême droite ». Alors, vous dites, avec la guerre froide, l'anticommunisme a redéfini les positionnements, mais certaines extrêmes droites ont vu Moscou comme un rempart contre Washington et sa société du melting pot. Donc la chute de l'Union soviétique et l'ère Poutine ont dessiné un nouvel arc. La Russie devient un modèle politique et exerce une influence directe sur les formations françaises. Toutes les dynamiques mises en place pendant un siècle convergent lors de l'invasion de l'Ukraine. Alors, c'est très intéressant. On a une minute pour développer ça et pour inviter les auditeurs et les auditrices à lire votre livre, hein, paru au Seuil.
Et alors, on revient même à votre question précédente, parce que, par exemple, il y a un agitateur panafricaniste qui vit aujourd'hui en Afrique, qui a été déchu sa nationalité française, qui passe son temps à fustiger le colonialisme français et qui est tout à fait lié au réseau russe, justement, et qui participe de cette ingénierie de l'influence russe. Donc, que ce soit d'un côté ou de l'autre, justement, on a su créer des relais d'information, des relais d'influence dans les camps qui se relient à la question coloniale comme de ceux qui se relient à la question anticoloniale. Pour ça qu'il faut toujours le cadre transnational.
Écoutez, la boucle est bouclée, c'est formidable. Donc je rappelle le titre de votre livre, Paris-Moscou, un siècle d'extrême droite, Nicolas Lebourg, Olivier Schmitt, c'est au Seuil. Merci, au revoir.
Merci.
C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, La Main Rouge, une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Ludovic Asselot.